troisième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire pendant laquelle nous interrogeons sur la façon dont les historiens, les historiennes peuvent à un moment provoquer une polémique dans la société dont il parle aujourd'hui Robert Paxton. La France de Vichy, de Robert Paxton, paru en France en 1973, et son auteur sont généralement considérés comme des lieux de mémoire de l'histoire de France au XXe siècle. Pour l'auteur du syndrome de Vichy, Henri Rousseau, Robert Paxton est même devenu un personnage de notre roman national. Il est cité dans les manuels d'histoire de terminale qui traitent d'un des thèmes possibles du baccalauréat dans quelques jours, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il participe à un moment d'histoire nationale, le début des années 1960, qui voit le débat sur la France de l'occupation se transformer après la sortie en salle du Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls ou encore la grâce accordée par le président Pompidou à Paul Touvier. C'est ce que nous verrons ce matin avec Robert Paxton grâce à des textes de presse de l'époque de la parution de La France de Vichy, lu pour nous par Christophe Braun. Bonjour Robert Paxton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Et merci d'être avec nous, surtout parce que nous nous croisons de temps en temps à ce micro avec vous, Robert Paxton, mais que nous n'avons jamais eu l'occasion de revenir sur ce qui vous a fait connaître du public français et même dans le monde entier. Votre France de Vichy, paru donc aux États-Unis en 1972 et paru en France en 1973, très rapidement, plus rapidement que pour d'autres ouvrages que vous avez pu voir paraître en France bien plus d'une dizaine d'années, voire d'une vingtaine d'années après leur parution en anglais. C'est cela, Robert Paxton ?
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Alors, ce livre, La France de Vichy, fait que vous vous retrouvez dans les manuels d'histoire de terminale. Vous le saviez sûrement, j'imagine, parce qu'il y a un thème du baccalauréat qui s'intitule « Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale », comme d'ailleurs il y a un autre thème sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Ce qui intéressera nos auditeurs demain, puisque nous parlerons de l'affaire Audin, donc de cette mort d'un mathématicien français pendant la bataille d'Alger. Mais là, nous allons parler avec vous de la réception de ce livre qui vous permet d'être dans les manuels d'histoire au titre de l'évolution d'un historien depuis les années 70. On cite votre préface, deuxième préface à votre livre La France de Vichy en 1997, ou encore vous êtes cité dans un autre manuel comme l'apport décisif du travail de l'historien avec la théorie du bouclier mise à mal par vous-même. Et on vous trouve dans tous les manuels de terminale sur cette histoire-là. Est-ce que vous vous attendiez, quand vous étiez jeune étudiant arrivant en 1960 à Paris, pour travailler sur l'armée de la défaite, donc l'armée de 1940, est-ce que vous attendiez, donc 68 ans plus tard, à vous retrouver à toujours raconter cette France de Vichy sur laquelle vous avez travaillé depuis le milieu des années 60 jusqu'à 1972, parution en anglais de votre livre?
Ouais, en effet, je n'attendais pas d'être traduit en français, parce que mon premier livre, qui est sorti aux États-Unis en 1966, sur le rôle des officiers de carrière dans le régime de Vichy, sur l'armée, l'armée 6, est passé presque inaperçu en France. J'ai dû offrir moi-même l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, par exemple.
C'est vrai?
Oui, oui, c'est moi qui l'a donné à la BNF. Et ce livre n'a reçu aucun compte rendu. Il y avait 4 lignes parmi la liste des livres reçus dans la revue française de sciences politiques. Donc, j'attendais que le deuxième livre, La France de Vichy, aurait le même...
Le même écho, la même réception.
Zéro, nul. Le livre était traduit, qui est déjà important. Et c'était pas moi, c'était Stanley Hoffman, mon maître à Harvard, qui connaissait les éditeurs à Paris et qui a persuadé aux éditeurs du Seuil à prendre ce risque, parce que c'était vraiment un risque de publier un torchon comme ça. Et on est passé une année, Jean-Pierre Azima et Michel Vinoc ont passé une année à passer le texte à peigne fin.
Ah oui?
phrase par phrase. C'était avant l'Internet, donc il avait du courrier. Cher Paxton, est-ce que tu peux vraiment prétendre dire ceci ou cela, et je dois fournir mes preuves. Et ils ont trouvé quelques erreurs, mais normalement j'ai pu prouver le bien fondé ce que je disais. Donc le livre est sorti avec un examen très soigné, et on voyait bien que les éditions du Seuil avaient un peu le trac.
Oui, et on avait à ce micro il y a quelques jours Michel Vinocq pour évoquer les 40 ans du mensuel L'Histoire qu'il a fabriqué, qu'il a conçu avec d'autres en 1978, effectivement. Et il faut rappeler effectivement le rôle à ce moment-là justement d'un éditeur, parce que c'est un éditeur qui prend en charge cette question là, mais tout de même, vous avez cité son nom, aidé par une préface de Stanley Hoffman. Et dans cette préface, Stanley Hoffman, qui était très connu en France à ce moment-là, qui était le représentant, pourrait-on dire, des études sur la France aux États-Unis, Stanley Hoffman vous dit en ouverture de sa préface, voici un livre qui fera, je pense, parler non seulement de lui et de son auteur, mais surtout de son sujet, le régime de Vichy. Ça commence bien, tout de même.
Oui.
Et donc, ça vous permet d'entrer dans un cercle qui est le cercle des historiens de la France, étrangers de la France, c'est-à-dire parce que on vous considère dès ce moment-là comme un historien, entre guillemets, étranger de la France. Et c'est important dans la vision qu'on a de vous à ce moment-là.
Oui, sûrement. Et de certains points de vue, c'est un désavantage. On était étranger, donc forcément ignorant. Mais c'est aussi un avantage parce que je n'étais pas lié à un camp ou à un autre.
Et d'ailleurs, voici ce qu'écrivait au moment de la parution de la France de Vichy. C'était le 1er février 1973 dans le journal Le Monde. Paul Gillet, lu par Christophe Brault.
Mais qu'est-ce qui lui prend à cet Américain de venir rouvrir nos placards à cadavres? D'arracher si brutalement les bandelettes de nos momies nationales sous prétexte qu'il enseigne l'histoire de l'Europe contemporaine à Columbia University. Robert O. Paxton va se mettre beaucoup de monde à dos. Et d'abord les avocats des accusés de la haute cour qui, à force de répéter leur plaidoirie de 1945, ont fini par y croire et presque par gagner devant le public des revues de vulgarisation historique le procès perdu devant des jurés engagés avec passion dans l'histoire. Non, Pétain, le Pétain de l'État français n'a servi à rien. Il n'a pas eu de bouclier. Le bilan dressé par Robert Paxton dans cet ouvrage, nourri de références, est d'une impitoyable sévérité, beaucoup plus sévère que celui dressé par Robert Aron dans sa déjà ancienne Histoire de Vichy, écrite avant l'accès aux sources allemandes. Ainsi, plus on avance dans la connaissance minutieuse des sources, non seulement allemandes, mais aussi américaines, plus se restreint la marge laissée aux réhabilitations. Plus se craquellent, en revanche, les images toutes faites et les approximations lyriques qui nous ont servi de réflexion dans ce domaine depuis un bon quart de siècle. Car Vichy est loin d'être un bloc homogène. Sur la scène laissée libre par l'écroulement de la Troisième République, bien des conceptions disparates et rivales dansent leurs pas. Le ballet est réglé par la vieille droite traditionnelle, enfin revenue aux affaires, et par ces nouveaux aux dents longues qu'on appelle plus communément les technocrates et que Robert Paxton préfère appeler les techniciens. Il résume en une phrase ce qui lui paraît être l'essentiel du nouveau régime. Les conservateurs ont eu sous Vichy des pouvoirs que le suffrage universel leur refusait depuis 1932 et les techniciens une puissance que les politiciens ne leur avaient jamais donnée. Fin de citation. Réalité aucunement imposée par les tanks allemands. Hitler a profondément méprisé, pis ignoré, une révolution nationale qui n'était pas la sienne.
Voilà un Paul Gillet qui, en 1973, dans Le Monde, Robert Paxton vous a bien lu tout de même.
Ah mais bien sûr.
Il a très bien compris.
Oui, et j'ai été ravi parce que c'était le contraire de ce que j'attendais. Je croyais que je serais reçu fraîchement par la presse. Et peut-être un peu mieux reçu par les spécialistes. C'était le contraire, les historiens, les sciences, dans la revue française de sciences politiques, je recevais un compte-rendu absolument ahurissant, qui ignorait complètement la structure principale du livre, en insistant sur les erreurs de fait qui ont glisser ici et là, et en tirant la conclusion que je n'en sais rien de la France parce que je me suis trompé sur ceci ou cela. Et donc, c'était, parmi les universitaires, c'était reçu fraîchement ou même avec hostilité. Mmh. Et dans une partie de la presse, Le Monde principalement, c'était très bien reçu. J'étais surpris.
Alors, c'est intéressant parce que Henri Rousseau, dans son Syndrome de Vichy, dans ses travaux sur la mémoire de Vichy dans la société française, dit que le terrain, on pourrait parler de préparation d'artillerie, a été préparé. Avant vous, d'une certaine façon. Et Julian Jackson dit qu'il n'y a pas de bon livre d'histoire qui ne paraisse au bon moment.
Oui.
Et c'est vrai que votre livre paraît à un moment particulier, ce qu'explique Henri Rousseau comme Julian Jackson. Il y a eu Le Chagrin et la Pitié, interdit à la télévision, tourné en 1969, qui est en fait un éloge de la résistance, mais qui apparaît à beaucoup de ceux qui vont le voir en salle comme étant une critique de la France et en particulier du collaborationnisme de certains Français. Et puis il y a eu la grâce accordée par Georges Pompidou, président de la République, à Paul Touvier en 1971. Oui. Et cette discussion, ce débat une conférence de presse, en l'occurrence Georges Pompidou explique qu'il faut refermer les plaies qui font tant de mal à la France, etc. Et votre livre paraît juste après 68, dont on fête aussi, on célèbre les 50 ans, et où une certaine partie de ceux qui ont crié « Nous sommes tous des Juifs allemands » se posent des questions sur l'héritage de cette Seconde Guerre mondiale dans la société française, Robert Paxton.
Oui, il est certainement le cas que mon livre est paru à un moment très, très favorable. Et on peut prendre un cas contraire, un livre excellent par un Allemand, qui est sorti.
Eberhard Jäckel,
qui était un grand historien allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle La France dans l'Europe de Hitler, qui est sorti, je crois, en 1966, 7, 8 à peu près. Mais trop tôt. On n'avait pas encore eu les manifestations des étudiants, on n'avait pas encore eu Chagrin à la Pitié, il n'avait pas eu ce tournant d'opinion, les gens n'étaient pas prêts, et son livre est passé à peu près inaperçu. C'est un excellent livre, et qui tire les mêmes conclusions que moi sur les relations entre Vichy et les Allemands. Il disait beaucoup moins sur le côté interne de Vichy, mais au plan Vichy et les Allemands, c'est la même chose, identique, mais complètement ignoré.
Oui, et donc, comme d'autres livres, d'ailleurs en 71, de John Sweets, par exemple, oui, qui, sur les mouvements unis de la résistance, n'a jamais été traduit en français, par exemple. Donc, il y a des livres qui passent la rampe, qui passent un moment, parce que des éditeurs s'en aperçoivent, parce que des grands parrains, comme Stanley Hoffman, pour vous, vous permettent de passer la rampe, et d'autres fois, eh bien, ça ne se passe pas, en l'occurrence.
Et c'était le cas de mon premier livre, bien sûr, qui est sorti en 66, sans être traduit, avant 38 ans plus tard.
c'est beaucoup, effectivement. Alors, dans cet article du Monde, Paul Gillet dit « Les avocats des accusés de la haute cour, qui à force de répéter leur plaidoirie de 45, ont fini par y croire. » Il explique bien, effectivement, que votre cible, d'une certaine façon, ce sont les sources sur lesquelles, en particulier, Robert Aron, en 1955, a fondé son livre qui s'appelait « Histoire de Vichy ».
Oui.
Et qui vous a bien accueilli, Robert Aron, quand vous êtes arrivé pour le voir, a trouvé intéressant votre propos sur l'armée de la défaite. Mais simplement, votre livre va être une critique, une contre-proposition, pourrait-on dire, à l'interprétation qu'avait Robert Aron, et en particulier cette interprétation qui faisait de Vichy un gouvernement qui avait un double jeu, qui tressait des relations avec les alliés en cachette pendant qu'il négociait avec les Allemands, et aussi de Pétain un bouclier, alors que le glaive, évidemment, aurait été De Gaulle, Robert Paxton.
Oui, il est vrai que j'ai contacté Robert Aron avant de venir à l'automne de 60 pour faire ma thèse de doctorat, et il m'a reçu très gentiment. C'était un homme très ouvert, très accueillant, un homme tout à fait bien. Et son livre, c'était l'autorité à l'époque. Donc je suis allé le voir pour demander ses conseils. Et il m'a ouvert à ses propres sources. Et ses propres sources, c'était les procès de l'après-guerre. Et il m'a envoyé avec une lettre d'introduction à Henri Noguer, le fils du président de la Cour de justice, qui avait chez lui, Place des Vosges, tous les comptes rendus scénographiques des séances publiques, des procès. Et Robert Aron a travaillé à partir des procès, c'est-à-dire qu'il a adopté...
Des procès de l'épuration.
Procès de l'épuration, exactement, procès de l'épuration de l'après-guerre. Et donc, il a pris comme problématique la problématique de la Cour, c'est-à-dire la recherche pour violation de l'article 75, contact avec l'ennemi en temps de guerre, qui met les Allemands au centre de la chose. Qui a eu le fait de ne pas considérer Vichy comme quelque chose qui sort des querelles des années 30, qui appartient à l'histoire de la France, mais qui est imposé par les Allemands. Mais ce qui est curieux, les Allemands ne sont guère présents. Je ne crois pas qu'ils lisaient l'allemand, Robert Aron. Mm-hmm. De toute façon, les Allemands, pour lui, ils sont là, mais ils sont là, c'est une sorte de nuage immense, tout puissant, qui domine, mais sans détail, mais qui est immense, un peu
et qui empêche Vichy d'avoir quelque initiative que ce soit de son propre côté.
Oui, tout vient de cet immense nuage noir des Allemands. Et donc, j'ai dû me libérer de cette perspective.
Oui, donc il fallait sortir de cette vision telle qu'elle était proposée par Robert Aron, mais pas simplement par Robert Aron, mais par ses sources françaises, aller chercher d'autres sources. C'était les sources allemandes, en l'occurrence, qui montraient effectivement la relation tissée, très ambiguë, dites-vous, avec Hitler d'un côté et Pétain de l'autre, les Allemands d'un côté et les Français vaincus de l'autre, qui est une relation ambiguë parce que Hitler veut quelque chose, alors que les gens de Vichy lui proposent autre chose, Robert Paxton.
Oui, oui. Mais Hitler, l'idée de Hitler sur la collaboration, c'est que la France fournit du matériel, des produits agricoles, du vin, de la viande, etc., pour la machine de guerre allemande, et pour le reste tranquille.
Et donc il faut un gouvernement qui restera tranquille, qui permettra aux Français d'être tranquilles. Surtout, il ne faut pas que ce gouvernement, pour Hitler, puisse rejoindre Londres véritablement. Que s'il rejoint Londres, il redeviendra un belligérant, alors qu'il a sous la main un gouvernement qui peut empêcher la guerre.
Hitler a expliqué très clairement à Mussolini, le 18 juin, il est allé voir Mussolini, le paix était déjà annoncé, Mussolini se frottait les mains, nous allons sauter sur Tunisie, Nice, Nizza, etc. Il et lui dit pas si vite, non, si on fait ça, les Français iront à Londres, donc il faut les garder ici, et en plus, et c'est une chose très importante, il faut les faire gouverner eux-mêmes, parce qu'autrement ça va coûter trop cher.
Parce qu'il faudrait beaucoup de troupes pour pouvoir occuper le pays.
Oui, de l'argent. Il était très économe, Hitler. Il voulait que les Français font les dépenses. Et parce qu'il voulait tout réserver pour le débarquement en Angleterre. La France était une sorte de tremplin. Il allait partir de la France pour débarquer en Angleterre. Il voulait que les Français gèrent les choses eux-mêmes. Pour épargner de l'argent.
Et pendant ce temps-là, les Français pensaient à autre chose, pensaient à rentrer dans une collaboration pour certains d'entre eux active ou fabriquer la révolution nationale.
Oui, les deux choses. On allait chercher un avenir dans l'Europe de Hitler, qui était définitivement établi à leur avis, et ensuite refaire la constitution de la France, réparer les erreurs de la Troisième République. C'est deux missions.
Voilà, ces deux missions, effectivement, sont mal comprises quand vous sortez votre livre, par exemple, dans Le Monde, une tribune de l'amiral Paul Offan. C'était le 22 mars 1973, Christophe Brault.
L'ouvrage de Monsieur Robert O. Paxton, commenté dans Le Monde du 1er février, n'est pas qu'un livre émaillé de lacunes et d'erreurs. C'est un exposé passionné qui cherche à tordre un peu l'histoire pour dresser l'opinion américaine contre la France traditionnelle. L'idée maîtresse est de reconstituer ce qui s'est passé en France de 1940 à 1944 à l'aide de documents allemands, sans référence aux documents français publiés depuis lors, car, dit l'auteur, ceux-ci ont été établis par des gens qui, après la guerre, avaient intérêt à travestir la vérité. Leur vie en dépendait, ajoute-t-il. Ce qui est un point de vue désobligeant pour beaucoup d'entre nous, mais qui néglige surtout de dire que celle des fonctionnaires nazis d'alors dépendait davantage de leur zèle imaginatif et de ce qu'ils écrivaient. Dans la situation où la France se trouvait, on ne pouvait guère répondre à une exigence de l'adversaire qu'en ayant l'air, pour nouer une négociation, d'abonder dans son sens en disant « oui, mais… » L'auteur fait une telle confiance aux documents allemands qu'il n'hésite pas à conclure qu'une chose n'a pas existé parce qu'il n'en a pas trouvé la trace. Exemple. Tout le monde sait que c'est grâce notamment à 4 télégrammes adressés à Vichy par mois à l'amiral Darlan à Alger, d'accord avec le maréchal, mais à l'insu de toute autre personne, que l'Afrique du Nord et l'Empire français ont repris la guerre en novembre 1942, dans l'ordre et dans la discipline, au nom du maréchal empêché. Entre guillemets. Notre historien n'ayant rien trouvé à ce sujet dans les archives, au lieu de conclure que j'avais bien pris mes précautions, écrit triomphalement, je cite, « Aucun document de l'époque ne le prouve, tout le reste est littérature ». Fin de citation. La vérité est que l'oreille, dont on ne voyait à travers le récit qu'un petit bout, apparaît tout entière dans la dernière phrase de l'ouvrage où M. Paxton, qui avait 8 ans en 1940, déclare que les 40 millions de Français de la métropole auraient dû à cette époque désobéir à l'État et se révolter. Bon, ce livre n'est au fond qu'un pamphlet pour essayer de justifier cette opinion.
Voilà ce qu'écrivait donc l'amiral Paul Auffant.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
C'était le 22 mars 1973, après la parution de votre livre « La France de Vichy », sur lequel nous nous attardons aujourd'hui avec vous, Robert Paxton, dans Le Monde. Voilà quelqu'un qui tente de justifier sa position de l'époque, oui. Qui dit que vous vous appuyez sur de mauvaises sources pour dresser l'opinion américaine contre la France traditionnelle.
Traditionnelle, oui. Ben oui, ben j'ai eu plusieurs conflits avec l'amiral Auffant, parce qu'il avait cette émission à la télévision, un dossier de l'écran. C'était l'année suivante. Et pendant l'émission, l'amiral Auffant s'est tourné vers moi. Il m'a montré du doigt. Il m'a dit, monsieur, un de nous ment. Et j'étais en train de commencer à lui dire en quoi il mentait, et les autres participants m'ont arrêté en disant non, non, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que des différences d'opinion. Mais c'est pas vrai du tout. C'est l'histoire de télégramme à Darlan.
Oui.
Par laquelle Darlan passe en légalité avec le, avec, l'approbation de Pétain, tout ça a été inventé par l'amiral Auffant. Il y a bien eu un télégramme d'accord intime, mais le télégramme d'accord intime commence par citer un autre télégramme, le numéro d'un autre télégramme auquel il répond. C'est toujours comme ça, un télégramme fait référence à un autre télégramme. On a maintenant l'autre télégramme.
Et que disait l'autre télégramme?
L'autre télégramme, Darlan, on est pendant la période intermédiaire. Darlan n'a pas encore se joint aux Américains. Il cherche à garder une sorte de neutralité. Garder la souveraineté française sur l'Afrique du Nord, garder les Américains au bout des bras un petit peu, en attendant, essayant de trouver une solution moyenne. Et donc, il a établi une sorte de neutralité. Mmh. Et il en vante à Pétain, et Pétain dit accord intime. À cette position de neutralité, non pas le ralliement de l'Afrique du Nord aux Alliés, auquel Pétain s'opposait, parce que la chose que Pétain craignait le plus, c'est que la France devient de nouveau un champ de bataille.
Mmh. Oui, donc on voit bien effectivement que vous êtes aussi, et ça c'est la particularité peut-être de la naissance dans ces années-là, de ce qu'on pourrait appeler une histoire du temps présent, puisqu'il y aura d'ailleurs un institut qui naîtra à la fin des années 70, en 1978-79, qui s'appellera l'Institut d'Histoire du Temps Présent, auquel a appartenu d'ailleurs Denis Péchanski, qui était l'invité des matins tout à l'heure chez Guillaume Erner. Cet Institut d'histoire du temps présent, dit qu'on peut travailler sur une période récente, que les archives n'étant pas toutes ouvertes, on peut quand même travailler sur une période récente, alors qu'auparavant, on expliquait qu'il fallait 60 ans, 70 ans pour pouvoir travailler sur des périodes historiques, une fois que les archives auront été ouvertes, que les témoins seront morts. Vous vous trouvez dans cette polémique autour de la France de Vichy, en présence d'acteurs de Vichy qui sont encore vivants, oui, et qui vous reprochent de n'avoir que 8 ans en 1940, par exemple.
Oui, comme si les gens ne pouvaient pas écrire l'histoire de la Grèce antique sans avoir même 8 ans à l'époque, mais de toute façon. Mais je crois que l'histoire, quand on écrit l'histoire, on imagine qu'on jette une première version autant qu'on peut. Et puis, les gens qui viennent après feront à fur et à mesure les corrections, les ajustements de tir. Et il faut commencer tout de suite, parce que les témoins sont là, les souvenirs sont vifs. Il ne faut pas attendre l'ouverture de toutes les archives, mais il faut attendre que ça soit corrigé par la suite, par l'ouverture des archives.
C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision différente de certains des professeurs qu'on a pu avoir ou qui ont pu exister dans la première moitié du XXe siècle, oui, par exemple, cette vision qui était de faire la somme définitive, qui d'une certaine façon disait le vrai sur une période de façon définitive.
Absolument, oui, je crois qu'ils croyaient que leur livre serait permanent. Et tandis que moi, je sais que tous les livres sont sujets à révision.
À réévaluation ou à dévaluation postérieure. C'est vrai que vous racontez cette petite anecdote, Robert Paxton, un des grands professeurs de cette question-là, Jean-Baptiste Durosel, lui-même combattant pendant la Première Guerre mondiale, qui était très célèbre, qui avait une chaire à la Sorbonne très importante, en particulier d'histoire internationale, vous dit « je vais écrire le livre qui va critiquer ce que vous avez dit, vous, Robert Paxton, dans la France de Vichy ». Et vous êtes tout surpris, dites-vous, de voir paraître ce travail qui dit à peu près la même chose que vous, sauf sur des points de détail, dites-vous, Robert Paxton.
Oui. En effet, il était très, il a été toujours très bien avec moi au plan personnel, mais il croyait que je me suis trompé sur certaines choses, mais il n'y avait que des très petites différences en matière de détails entre lui et moi. Il n'a rien changé de fondamental.
Alors, une autre critique parue dans Le Monde en 1973, au moment de la parution de La France de Vichy, c'était le 17 mai 1973, Alfred Fabrelus, lu par Christophe Brault.
Qu'un professeur américain exprime ses vues, c'est son droit. Mais quand il formule des conclusions sommaires dont le public étranger ne retient le plus souvent qu'une condamnation des Français, il faut exiger de lui la rigueur scientifique à laquelle il prétend. Or, le livre de Robert O. Paxton contient, je l'ai montré ailleurs, malgré son grand déploiement d'érudition, de nombreuses erreurs de fait et d'interprétation. S'il révèle certains textes nazis, il en cache d'autres plus importants. Ceux, par exemple, où Hitler exprime sa méfiance envers Darlan ou dénonce la résistance permanente de Pétain. Et néglige les faits qui s'accordent mal avec ses conclusions. Pétain a fait fusiller 29 espions allemands. Il méconnaît constamment les contraintes de la situation, les nécessités globales de la défense de l'Empire, la valeur du temps gagné, et construit avec beaucoup de légèreté des politiques de rechange qui ne résistent guère à l'examen. Par son outrance, un tel livre risque de nous faire oublier les critiques justifiées que nous pouvons adresser au gouvernement de Vichy. Il y a heureusement aux États-Unis des historiens plus équitables.
Ouais, votre rire dit beaucoup, Robert Paxton. Qu'est-ce qu'on vous reproche, en fait, dans ces articles de presse, d'être américain, de vous être fondé sur des archives allemandes, de salir la vision de la France pendant l'occupation? Qu'est-ce qui ressort de ces critiques qui vous sont faites?
Tout ça, mais je crois que leur critique, le fondement de leur critique, c'est que je démolissais une structure mentale qui avait mis en place en 45 pour pour expliquer ce que Pétain a fait. C'est-à-dire que Pétain a voulu sortir de la guerre pour protéger les Français et d'une répétition de la guerre d'usure de la première guerre de 14-18. Et puis il n'a jamais cessé d'essayer de protéger les Français des coups allemands. Donc
ça, c'était la théorie qui était à l'œuvre quand vous avez travaillé.
Oui, c'est déjà dans le livre de Robert Aron que tous les coups viennent du côté allemand et le maréchal Pétain les résiste tant bien que mal, autant que possible, parfaitement, parce que sa position n'est pas très forte. Mais donc c'est le bouclier, la thèse du bouclier, et la thèse du bouclier est très rassurant. Pour beaucoup de gens, parce que ça donne une image positive de Vichy et de Pétain. C'est une image qui cache complètement les initiatives de Vichy en matière de législation anti-juive, par exemple, l'antisémitisme. C'est une image rassurante. Et je l'ai cassé.
Oui, vous venez fissurer le bouclier d'une certaine façon. Et donc avec votre livre, avec les livres qui vont suivre votre Vichy et les Juifs, qui a été republié récemment, que vous avez coécrit avec Michael Marius, par exemple, ou tous les autres livres que vous allez faire ensuite, effectivement, parce que vous n'allez pas vous contenter de cette France de Vichy, Robert Paxton, vous allez continuer à travailler sur ces années 30, sur ce fascisme français, est-ce que c'est vraiment du fascisme, les chemises vertes de Roland Dorgères, par exemple, ce qui se passe dans le milieu paysan, dans l'ouest de la France, dans les années 30, et qui fait penser peut-être à un mouvement qui pourrait s'appeler fasciste, avec toute cette discussion qu'il y a sur la présence d'un fascisme français, par exemple. Vous allez continuer à travailler là-dessus, Robert Paxton, et ce travail va porter ses fruits d'une certaine façon, parce que vous allez être reçu de façon considérable dans la société française, pas simplement dans la société française, dans les autres pays également, mais parce qu'il y a des gens qui vont vous écouter et qui ne sont pas ceux qui ont vécu peut-être tous la Seconde Guerre mondiale, mais les enfants de ceux-ci, les chercheurs, les jeunes chercheurs, Denis Péchanski, Henri Rousseau, qui rappelle dans son syndrome de Vichy combien votre livre qu'il lit en 1975 va décider de son destin d'historien et du sujet qu'il va traiter. Tout cela, ça va suivre derrière.
Oui, mais j'ai l'impression que les oppositions des premiers jours sont estompées et peu à peu, certains secteurs influents, les journalistes, les professeurs, l'enseignement, et ces gens-là, dans leur grande majorité, ont accepté les thèses du livre avec parfois des détails ici et là pour critiquer, mais en général, la structure générale du livre sera acceptée par les gens qui vont enseigner ou qui vont commenter dans la presse ces choses-là. Donc, j'ai l'impression maintenant d'être accepté plus ou moins généralement, avec des critiques.
On va y revenir dans un instant, mais puisque vous parlez des professeurs qui vous enseignent, écoutez cette lecture par Christophe Brault de Pierre Picon, professeur à l'école normale du Puy, qui commente la parution de votre ouvrage. Toujours dans Le Monde, c'est le 17 mai 1973.
Personne n'a dénoncé à ma connaissance l'erreur commise à plusieurs reprises par M. Paxton dans son livre « La France de Vichy » au Seuil en 73. M. Paxton écrit, je cite, « Les Israélites n'ont déjà plus le droit d'enseigner depuis le 3 octobre 1940. Les maîtres qui restent en fonction doivent prêter serment au régime. » Fin de citation. Beaucoup d'universitaires peuvent opposer à cette affirmation leurs souvenirs. Ils en trouvent d'ailleurs la confirmation dans le livre de M. Henri Michel, « La Seconde Guerre mondiale, tome 1 », aux presses universitaires de France, que M. Paxton aurait dû consulter. À la page 328, M. Michel écrit, je cite, « Un serment de fidélité à la mode fasciste envers la personne du maréchal Pétain est exigé d'abord des militaires, puis des magistrats, qui le prêtent tous, à l'exception d'un seul, enfin de l'ensemble des fonctionnaires d'autorité. » Fin de citation. Monsieur Paxton, croit-il que les instituteurs, les professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur aient jamais été considérés en France comme des fonctionnaires d'autorité? les enseignants des années d'occupation restent marqués par la honte ineffaçable d'avoir laissé exclure, sans se solidariser avec eux, leurs collègues juifs et francs-maçons. Qu'on n'y ajoute pas l'opprobre d'avoir prêté serment au chef de l'État de Vichy.
Alors, ont-ils prêté serment au chef de l'État de Vichy, ces instituteurs, comme vous le disiez, ou ça n'est pas le cas, comme le dit Pierre Picon dans cette tribune du Monde ?
Mais j'ai l'impression qu'ils ont prêté serment. Parce qu'il y a des professeurs qui en parlent, notamment Madame l'amie de Sartre,
Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir en parle dans ses mémoires. Elle a prêté serment. C'est un cas. Qui sait si ça c'est une preuve. Mais j'ai l'impression que au moins les professeurs de lycée au moins ont prêté serment.
Alors venons-en justement, puisque Henri Michel est cité, ce grand historien qui avait mis en place le comité d'histoire de la Seconde Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite après la guerre, qui a mis en place une procédure de recueil de témoignages de tous ceux qui avaient participé à la résistance en particulier, qui vous a bien accueilli, lui, Henri Michel, il dit, c'est le plus implacable réquisitoire jamais dressé jusqu'à ce jour par un historien contre le régime de Vichy, dit-il quand paraît votre livre, ou encore c'est la meilleure étude d'ensemble parue à ce jour sur l'État français, ses dirigeants et sa politique. Néanmoins, vous avez reçu des critiques de vos confrères qui sont des critiques que vous avez intégré à votre propre travail dans les éditions postérieures de La France de Vichy, en particulier celle de 1997. Vous dites, oui, sur certains points, j'ai été moins bon que sur d'autres, par exemple sur la question de l'opinion française et de son évolution. J'ai une vision un peu caricaturale de l'opinion française de 1940, qui serait unanimement péténiste, et puis d'une opinion de 1944 qui serait favorable au général de Gaulle de façon univoque, dites-vous. Et en fait, le travail de Pierre Laborie, publié depuis, vous a permis de nuancer cette opinion que vous exprimiez dans votre premier ouvrage, traduit en français, à savoir La France de Vichy, Robert Paxton.
Oui, oui. Plus généralement, on m'a reproché de mettre les Allemands un peu trop en arrière. Mm-hmm.
C'est-à-dire d'avoir trop...
À force de vouloir souligner les initiatives de Vichy, est-ce que j'ai omis, est-ce que j'ai diminué un peu trop l'influence très réelle des Allemands? Donc certains disent que dans mon livre, les Allemands disparaissent presque.
Et qu'est-ce que vous en pensez justement ? Vous pensez que ça n'est pas le cas ? Vous l'avez corrigé plus tard ?
Bon, j'ai essayé de corriger un petit peu. Je crois que j'ai pris la présence des Allemands comme allant de soi.
Oui. Ils étaient là.
Ils étaient là. Et après, depuis, j'ai voulu donner les dimensions assez précise à ces questions. J'ai préparé un article avec un jeune Allemand, un chercheur sur l'armée allemande, de savoir exactement combien de militaires, combien de troupes et de policiers les Allemands avaient. Eh bien, on sait que depuis la conversation de 18 juin 40 avec Mussolini, Hitler disait « Je n'ai pas assez d'hommes à tout faire moi-même, je dois laisser un minimum de gens en France. » Et après le début de la campagne en Russie, Hitler a repris beaucoup de soldats et de police de la France. Il a démuni la France. L'administration allemande en France est faible en personnel. Et nous avons trouvé qu'il y a 30 000 soldats armés dévoués à la chasse à la résistance, mm-hmm, en 43 et 44, que les millions de soldats allemands sur la côte ont des ordres précis à ne pas réagir à la résistance parce que ça risque de l'exposer si les alliés arrive au moment où ils sont en train de chasser la résistance, ils ne pourront pas défendre les côtes.
Bien
donc,
sûr.
La capacité des Allemands d'administrer la France tout seul avec leurs propres moyen, ils n'ont pas la capacité. La même chose pour la police et pour les forces armées. Ils ont besoin de la police française. C'est très très clair. Donc les Allemands sont moins forts qu'on disait. Mais peut-être chez moi, je prends un peu trop. J'accepte que les Allemands sont là sans trop les souligner.
Vous dites aussi, par exemple, que les travaux de vos successeurs ont montré le glissement de l'opinion publique peut-être plus précoce que ce que vous aviez imaginé. C'est-à-dire que ce glissement de l'opinion publique, il remonte un peu plus haut dans la guerre que ce que vous aviez imaginé. C'est plutôt l'automne ou l'hiver 42-43 qui voit que le soutien important à Pétain se fissure à ce moment-là, par exemple.
Oui, bien sûr. C'est un peu John Sweet que vous avez mentionné, qui étudie Clermont-Ferrand. Mais Clermont-Ferrand, c'est un cas un peu particulier. Mais à l'automne de 40...
Ville ouvrière,
l'université de Strasbourg repliée, etc. Oui. Mais à l'automne de 40, il y a déjà beaucoup d'opposition à Clermont-Ferrand, plus qu'ailleurs. Mais dans les campagnes... Parfois, c'est le contraire. Donc, il n'y a pas une histoire de l'opinion française. Et l'opinion française, c'est un mosaïque. Et il faut avoir beaucoup de nuances pour le présenter.
Alors, et puis, il y a autre chose qui vous est reproché, c'est ce portrait noir que vous faites de la France. Et votre maître Stanley Hoffmann, à propos du chagrin et la pitié, en 72, disait « Sur les balances de l'histoire, les grandes choses pèseront plus que les médiocres. » Et donc, il disait qu'au bout du compte... L'héroïsme des résistants, par exemple, allait l'emporter sur la veulerie des collaborateurs. Or, on s'aperçoit qu'effectivement, dans la mémoire française, peut-être depuis la parution de votre livre, il y a 45 ans maintenant, Robert Paxton, eh bien, cette question de héroïsme et veulerie est partagée de façon un peu particulière et que, tout compte fait, on insiste, dit-on, souvent sur les erreurs de la France, et vous en seriez en partie responsable, disent certains, sur les erreurs de la France, sur la collaboration, etc. Alors que la recherche a beaucoup évolué depuis, et qu'on a beaucoup travaillé justement sur des nuances de passage entre Vichy et la Résistance, par exemple.
Oui, j'ai appelé le livre « La France de Vichy ». Et j'ai toujours insisté que le livre ne traite pas de la France tout entière. C'est la France de Vichy. Et si je ne parle pas de la résistance, c'est que c'est pas le sujet du livre. Ça ne peut pas dire que je trouve que la résistance est négligeable. Toutefois, on ne peut pas dire que les Allemands ont été sérieusement entravés à partir du 1er juillet 40, je me souviens très bien d'un colloque ici à Paris où un représentant des services historiques de l'armée allemande a dit que c'est au printemps de 43 que l'armée allemande a dû pour la première fois changer la disposition de ses forces en fonction de la résistance. Il y avait des soufflements, des expressions de horreur dans la salle. Mais du point de vue militaire, c'est à peu près ça. Il faut établir les choses comme elles étaient. Mais je n'ai jamais écrit sur la résistance, pas sérieusement. Donc le fait que la résistance ne joue pas un grand rôle dans le livre ne veut pas dire que je nie leur importance.
Oui, et d'ailleurs, quand vous êtes appelé à venir dans des procès, par exemple, que ce soit le procès Touvier ou le procès Papon, c'est en tant qu'expert de la collaboration ou de la France de Vichy qu'on vous appelle. Ça n'est pas pour parler d'autre chose, en l'occurrence. Oui. Ça, c'est aussi une des particularités, c'est que vous ne vous attendiez sûrement pas, Robert Paxton, en faisant votre travail sur l'armée en 1960, à partir de 1960, ou sur la France de Vichy au début des années 70, à entrer dans un tribunal et à témoigner en tant qu'historien. C'est quelque chose de très particulier qu'on vous demande à ce moment-là.
Oui, et j'avoue que c'était très, très, très stressant.
J'ai trouvé
cette obligation parce que je le considérais une obligation. J'ai même consulté des collègues à Columbia dans la faculté de droit. Est-ce que je dois faire ça? Et les diplomates américains m'ont encouragé de le faire. Donc, je suis allé témoigner, mais c'était pas très agréable.
Parce qu'on doit dire toute la vérité, et qu'on sait bien quand on est historien que cette vérité, elle n'est pas fixe, comme vous le disiez tout à l'heure, oui. Et qu'elle évolue au fur et à mesure du travaux
oui, des historiens. Non, je ne suis pas sceptique complètement à ce qu'on peut dire au sujet de ces deux hommes, mais j'aurais bien témoigné contre Bousquet, le chef de la police, mais Bousquet n'était plus là, et Papon était un peu le remplaçant, et comme accusé, il était moins que parfait. Il était pas un décideur, il était un exécutant. Et je n'avais aucune sympathie pour lui, mais il était un peu, il a été un peu choisi comme pour représenter tous les hauts fonctionnaires français. C'est le poids sur ses épaules. Donc c'était un peu, j'étais un peu inconfortable avec le procès en soi.
Et le rôle qu'on doit y tenir dans un procès quand on est historien.
Oui.
Il y a d'ailleurs certains historiens qui ont refusé de participer
à ça. Tout à fait. Qui dit qu'il y a une contradiction entre la façon de témoigner dans une cour et la façon d'un historien à présenter tous les côtés d'une question.
Alors, il y a aussi, dans cette réception, pourrait-on dire, comme on dit en histoire de votre ouvrage, La France de Vichy, Robert Paxton, de grandes qualités qui font que, au bout du compte, on ne peut plus dire, comme on le disait à l'époque, que la France avait du mal à affronter son passé. Aujourd'hui, des générations d'historiens ont travaillé dans vos pas et dans les pas de ceux que vous avez cités, Hébert Jaquel ou d'autres, dans ces années 70, qui ont renouveler profondément le travail de mémoire et d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale en France, par exemple, Robert Paxton.
Ah oui, ben je passe mon temps aux États-Unis à essayer de m'opposer à cette remarque qui est partout.
Vous voulez dire que les Américains pensent que la France ne veut pas garder son passé en face, c'est
exactement.
Ça encore aujourd'hui.
C'est la seule chose qu'on sait de la France. Deux choses, les Français aiment le vin et les Français refusent de faire face à leur passé. Donc je passe beaucoup de temps à nier la deuxième proposition, non pas la première. mais oui, mais j'ai été invité après les procès Papon à écrire un petit article dans le New York Times pour exprimer mon point de vue, et les éditeurs ont remplacé ce que je disais avec la phrase « La France refuse à faire face à son passé ».
C'est vrai.
Et mon Dieu, la France a accusé un de ses hauts fonctionnaires. Quand est-ce que les Américains ont intenter un procès contre les généraux de la guerre du Vietnam, par exemple. Ils font face à leur passé beaucoup mieux que nous, Américains. Je le disais ça, mais c'est une phrase qui revient sans y penser. C'est un peu plus ou moins automatique, ça.
C'est la difficulté, et on pourrait terminer avec vous là-dessus, Robert Paxton, du travail de l'historien, c'est-à-dire que il chamboule les idées reçues, il casse les clichés, il fissure les boucliers pétainistes pendant la France de la Seconde Guerre mondiale, mais au bout du compte, il y a toujours à l'œuvre autre chose, d'autres récits qui continuent à circuler dans les familles, dans les pays étrangers sur la France. Et l'efficacité de ce que l'on fait comme travail, il y a une très grande efficacité, une efficience de ce que vous avez fait, évidemment, Robert Paxton, mais néanmoins, parfois, vous devez vous dire, on n'arrive pas toujours à aller jusqu'au bout de l'acceptation des idées que l'on a voulu proposer.
Ah oui, bien sûr, on a l'impression que les gens ont vu le livre, mais ils n'ont pas lu.
Parce oui, c'est ce que dit d'ailleurs Henri Rousseau en disant « Tout compte fait, il a été vendu à 100 000 exemplaires », ce qui est très bien, c'est un très beau succès, peut-être plus que 100 000, c'était 100 000 en 1997, mais il a été vendu à beaucoup d'exemplaires. Mais « Tout compte fait », ça n'est pas un best-seller de plusieurs millions d'exemplaires, donc il y a l'idée qu'on puisse savoir ce qu'il y a dans le livre sans même l'avoir lu, en l'occurrence.
Oui, oui, oui. Oui, il est très facile d'avoir un livre sur le chevet sans le lire ou en lire quelques pages sans vraiment digérer tout le contenu.
Et donc, si vous disiez aujourd'hui ce que vous dites dans la conclusion de votre préface de 1997, deuxième édition, je crois, de La France de Vichy, Vous dites, le livre a provoqué des débats passionnés et de nouveaux ouvrages viendront inévitablement supplanter certains de ces chapitres. C'est ce à quoi tout historien doit s'attendre. C'est même ce qu'il doit espérer. C'est formidable de dire tout compte fait que on peut être dépassé un jour.
Ah mais c'est inévitable. Il faut l'accepter parce que c'est inévitable.
Et donc, quand vous voyez arriver de jeunes historiens aujourd'hui, vous leur donnez le conseil de tenter de renverser Paxton comme Paxton a renversé les thèses de Robert Aron ?
Oh, je ne dis pas renverser moi, mais j'accepte leur travail. Et jusqu'à présent, nos travaux, à mon avis, la nouvelle génération a plus ou moins confirmé et ajouté. C'est plutôt un ajout, une contribution nouvelle sans complètement miner ce que j'avais fait avant.
Merci beaucoup Robert Paxton, c'était un plaisir de vous avoir à notre micro pour évoquer ce travail que vous aviez mené il y a 45 ans maintenant, mais qui est encore d'actualité et dont on peut encore discuter dans la France d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
Et merci de m'avoir invité.
Merci à Christophe Brault qui a lu les textes et à Anaïs Quien qui a préparé avec nous cette émission d'aujourd'hui. Une émission également préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Clément Daté était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Vous pouvez bien entendu réécouter cette émission sur le site de France Culture, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est FabriqueFC. FabriqueFC. Demain, nous parlerons dans notre série sur les historiens qui provoquent des polémiques de l'affaire Audin, une affaire qui traite de la place de l'armée en Algérie et évidemment de la mort de Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie.